Attention, vous écoutez un programme audioactif.
C'est alloué près de chez vous, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Si j'ai Avatar, oui j'ai Avatar. Avatar 2, bah non monsieur, il est pas sorti Avatar 2. C'est... Attendez monsieur, j'ai une idée. Par contre j'ai la bande-annonce d'Avatar 2. J'ai la cassette, ouais. En cassette, ouais. Il y a même un commentaire audio d'un spécialiste du cinéma qui critique la bande-annonce, ouais. Et puis vous la trouverez pas sur YouTube, hein. C'est la version VHS. Quoi. Ah oui, c'est une perle rare, ouais. Je peux vous la louer. Bon, vous en parlez pas trop, hein, parce que, mais je peux vous la louer. Ok. Ah oui, c'est le tarif d'un film normal. Ouais. Ouais. Même un peu plus cher, c'est très demandé. Ouais. Ok. Bah, y a pas de problème, hein, je vous le mets de côté, monsieur. Y a pas de souci. À bientôt, hein, en fin d'après-midi, vous passez. Très bien. À tout à l'heure, monsieur. Bonne journée. Tiens, salut Nico. Attends, je te demande juste un instant, je me note un truc. Faire une copie de la bande originale d'Avatar 2 sur VHS. Ok. Voilà.
T'as ça, toi ?
Alors, j'ai pas ça, mais bon, écoute, il y a suffisamment d'andouilles, hein, qui me parlent d'Avatar 2 maintenant. Ils veulent tout de suite. Alors, j'ai eu l'idée, là, pendant que je discutais avec le mec, je dis, bah, je vais la vendre. Donc, je vais faire un petit transfert sur VHS. Je vais mettre 2-3 commentaires après pour dire, ouais, c'est génial, un truc comme ça. Et puis je vais me faire un petit peu de sous. On se fait un petit peu de peu. Ouais. Oh, ça me dit que ça.
Oui.
Ça peut, il le mérite. Il le mérite. Oui. Bon, allez, qu'est-ce que tu me ramènes aujourd'hui ?
Bah, écoute, tiens, je te ramène un film qui n'existe pas, mais que j'ai adoré. Donc, si tu veux, on peut en discuter et tu vas me dire si toi ça te parle, parce que franchement, faut que ça sorte.
Alors, écoute, comme ça, sur le principe, j'ai envie de te dire, t'es en train de me dire n'importe quoi, mais. Du coup, tu m'intrigues, là. C'est quoi ton film dont tu veux parler ?
Bah, écoute, je sais pas si ça te le fait, mais quand je regarde un film, j'aime bien me mettre en condition. J'aime bien me mettre en situation un peu comme si j'allais au cinéma, même quand je suis chez moi. J'aime bien couper les lumières et vraiment me couper et me plonger dans l'œuvre. Et dernièrement,
mettre un pantalon.
C'est la chance que j'ai, c'est de le faire à la maison. Tu peux faire un peu ce que tu veux tant que tu es à l'aise. Et j'ai un peu ce sentiment-là maintenant avec certains albums de musique, tu vois. C'est quelque chose que j'essaye de faire, c'est-à-dire que sur certaines œuvres que j'attends, je n'ai pas envie de l'écouter vraiment d'une oreille distraite en train de conduire ou en train de travailler, mais j'ai vraiment envie de me plonger et d'écouter. Un album au même titre que je regarde un film. Et dernièrement, je me suis mis un peu en situation avec un album. Ça faisait un petit moment que je l'attendais. Enfin, ça fait surtout un petit moment qu'il était sorti, mais j'attendais vraiment le bon moment et un petit album d'une trentaine de minutes. Et un soir, c'était le soir. J'ai pas fait de plan sur la comète. Ça m'est tombé sur le coin du nez. Je me suis dit, écoute, t'as 30 minutes. Vas-y. Donc, je me suis mis, j'ai un peu baissé les lumières, j'ai réglé le système son, j'ai lancé cette œuvre et dans les oreilles, et c'était assez intéressant parce que c'était une musique. En tout cas, il y a eu plusieurs thèmes et c'était une musique qui me permettait de créer mon propre film. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de travailler l'imaginaire. Et donc, je vais t'en parler un petit peu parce que c'est alors, je vais pas forcément te dire le titre tout de suite, peut-être que tu vas connaître, mais il y a quelques chansons, et donc on commence par la première chanson qui est une sorte de générique, un vieux générique à l'italienne dans les années 60, avec un beau texte sur une ville qui t'indique les protagonistes et les personnes qui ont travaillé dessus, et arrive ensuite la deuxième chanson, où là, on rentre clairement dans le vif du sujet. Et cette première musique, moi, quand je l'écoute, tu vois, je vois deux femmes qui discutent dans un grand appartement. Ouais. Il y a une blonde avec une coupe de cheveux très 60. Alors, j'ai du mal à la décrire, mais tu sais, ça lui fait une tête un petit peu ovale avec les petites bouclettes qui remontent, là.
Ah oui, Françoise Hardy, quoi.
Exactement, un peu à la Françoise Hardy en blonde, avec sa copine un peu rousse, Elle rigole. Un grand appartement, très souvent en plus, dans les films italiens des années 60-70. C'était toujours des grands appartements. Je sais pas pourquoi, le giallo, ce genre de choses, aimait bien les grands appartements.
C'est vrai.
Et parce qu'ils aimaient bien les riches, très certainement, ou c'était peut-être plus facile pour mettre la caméra, je ne sais pas. Et à la fin de cette chanson, j'ai comme une vision, comme si c'était filmé de l'extérieur. On filmait par la fenêtre et on voit Belladonna, donc notre héroïne, qui apprend une mauvaise nouvelle de la part de sa meilleure amie, ou en tout cas de ce qu'on considère être son amie. Et on passe sur la deuxième chanson. La deuxième chanson, on voit notre héroïne qui sort dans la rue en courant. Elle monte dans une Fiat 500 jaune poussin, tu vois, c'est... Faut que ce soit flashy. Et ça contraste bien avec l'image très terne de la ville. C'est un peu, on va dire, Rome, ça se passe en Italie. Et on va la suivre, comme ça, dans la ville, avec une musique assez entraînante. Et on la voit s'arrêter devant un beau bâtiment, un petit peu caché. C'est pas forcément le bâtiment le plus connu, mais on la voit qui s'arrête. Elle est un peu fébrile. Et la chanson s'arrête sur le fait qu'elle pousse la porte et elle rentre dans ce bâtiment. Arrive donc la troisième chanson, et une chanson un petit peu bizarre, parce que elle commence de manière un peu bizarre, dans le sens où elle ne commence pas la façon dont le titre nous l'amène. C'est-à-dire que le nom de la chanson est un peu érotique, dirons-nous, et le début de la chanson ne l'est pas. Donc du coup, on est un petit peu... comme si notre héroïne descendait un peu, tu vois, des escaliers, des grands escaliers, un peu prudente, elle a un peu peur de ce qu'elle va y trouver, mais on est un peu sur une musique comme ça, un peu de thriller, mais la chanson change du tout au tout, et arrive à la promesse faite par le titre de cette chanson, et là, elle tombe sur un couple qui est en train de faire l'amour dans un luxueux salon éclairé au néon, violet et rose, et... On a un zoom sur son visage, on la voit dans l'escalier, et on sent qu'elle est triste, elle commence un petit peu à pleurer, et en fait, l'homme qu'elle découvre en train de faire une partie fine est son mari.
Aïe, 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 aïe.
On se doute que c'est un peu la nouvelle que son ami lui a dit précédemment, et qu'elle voulait vérifier par elle-même. Donc, voilà, on est sur une scène un peu érotique. Mais aussi avec un côté assez triste dans la mélodie qui fait que on n'est pas que dans la joie et l'allégresse à ce moment-là. Mmh. En tout cas, pas pour tous les protagonistes. Et du coup, la chanson suivante, et c'est là où je trouve que ça allait bien, c'est on est vraiment sur une musique triste. Et donc, je visue vraiment notre héroïne qui quitte l'appartement. On sait pas trop ce qu'elle a fait, mais elle marche en pleurant dans les rues comme ça de Rome. Là, il y a plus de voiture, il y a plus rien. Elle est vraiment en train de se poser des questions sur sa vie, sur la suite des événements. Voilà, c'est le moment émotion, on va dire, du film. Notre héroïne a appris la mauvaise nouvelle. Elle a été confrontée à la réalité, et là, c'est compliqué pour elle. Et
faut s'en remettre. Quoi.
Et il faut s'en remettre. Bon, c'est pas toujours les meilleurs. Les meilleures surprises, ce genre de découverte. Et on arrive sur la chanson suivante, qui est... et c'est là où j'étais vraiment parti sur une sorte de giallo, parce qu'on part sur une scène de meurtre du mari, avec une musique un peu plus entêtante. Et on est vraiment... Donc là, c'est vraiment sur la scène. On voit pas l'assassin. Alors, bizarrement, et alors on me demande pas pourquoi, mais sur cette scène-là, quand je l'imagine... J'ai l'image du tueur pour dans Six femmes pour l'assassin de Bava, avec le chapeau et le masque. Il y a un côté facile quand tu essayes d'imaginer une histoire, de te raccrocher à des choses que tu connais.
Ouais, tu vois les gants noirs, peut-être.
Exactement. Et je trouve qu'en fait, l'assassin dans ce film-là est parfaitement... je trouve qu'il est, il est très bien pensé. Parce que pendant tout le film, et c'était le principe du film de Bava, c'était de savoir qui avait tué qui. Enfin, qui avait tué toutes ces femmes. Et ils avaient réussi à vraiment créer un look de tueur qui permettait d'être vraiment unisexe. Et qui permettait vraiment de faire fonctionner l'imaginaire. Et bizarrement, moi, sur ma scène de meurtre, je pars sur ce côté un petit peu rochard de Watchmen, avec le masque blanc, avec un côté... on ne voit pas qui est l'assassin, mais on termine cette chanson avec un cadavre dans la ruelle, dégoulinant de sang bien rouge.
Bien rouge.
Parce que c'est toujours bien rouge, c'est important, ça.
Profondo rosso.
Exactement, avec cette tête ensanglantée. Et on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. On sait juste que le mari est mort. Et arrive donc l'avant-dernière chanson. Et là, on est un petit peu sur l'enquête de police. C'est un peu, on est un peu sur quelque chose de, voilà, il y a deux suspects qui sont donc Belladonna, notre héroïne, et la maîtresse du mari qu'on a découvert dans la partie fine. Et donc c'est un petit peu un jeu de chat et la souris. Et après des preuves malheureusement évidentes, Belladonna est arrêtée à la fin de cette chanson. Et on arrive donc à la dernière chanson et où on voit Belladonna en prison. Et on voit vraiment qu'elle est triste, que c'est compliqué pour elle. Et sa meilleure amie est venue la voir, donc celle qu'on avait vue au début du film. Et avant de partir, elle se lève et elle chuchote à l'oreille en fait de Belladonna. Et elle lui dit qu'en fait c'était elle la tueuse. Et elle lui dit que c'était elle la tueuse parce que... Et alors là j'ai un souci. J'ai un souci parce que du coup la VHS était en italien et les sous-titres de la VHS ont sauté à ce moment-là. J'ai pas compris ce qu'elle lui a dit. Donc je sais même pas pourquoi elle a tué le mari. Mais elle l'a fait. Ouais. Elle tue le mari à ce moment-là. Et on a le plan de fin en fait, qui est une sorte de dézoomage du visage de Belladonna, triste et en pleurs en prison. Et avec la caméra qui part, qui quitte la prison, qui est un peu, entre guillemets, l'inverse du plan de début, qui aurait été une sorte de zoom avant vers le village de Belladonna, et en fait, la boucle est bouclée, et voilà. Et donc,
pas mal.
J'ai terminé long métrage.
Ouais. Il a l'air pas mal ton film, mais bon, ça y est, oui, je t'ai reconnu, parce que je le connais, et je le connais pas.
Tu le connais ?
T'as écouté l'album d'Heroïna, Belladonna, quoi.
Bah oui, exactement.
Voilà. Et tu t'es raconté ton film. Alors c'est quand même rigolo parce que je le connais cet album.
J'ai même parce que toi aussi tu l'as écouté.
Bah je l'ai écouté, j'ai même le vinyle. Donc c'est un album que j'aime bien, mais moi par contre j'ai pas du coup écouté tout à fait le même film.
Ah.
On a.
Je suis curieux des différences.
Je vais te le faire un petit peu en ligne droite. Alors on a forcément des points communs évidemment parce que effectivement, dans la ce qu'on pourrait appeler le générique, l'introduction, évidemment, je voyais aussi une femme, Belladonna. Moi aussi, elle est blonde, bien sûr, avec des lunettes noires, puisque on va la voir s'habiller pendant le générique. Et comme c'est du cinéma italien, on va la voir s'habiller complètement, c'est-à-dire elle va sortir de la douche, elle va aller choisir ses affaires, etc. Et elle a l'air particulièrement déterminée. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle va faire, mais en tout cas, elle s'apprête manifestement pour sortir. Puis elle va aller dans la rue, et moi, là, je suis plutôt dans un polar napolitain. Et on va comprendre un petit peu où elle va, puisqu'en fait, elle va montrer une photo à des passants dans un quartier un petit peu louche, où il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, finalement, des espèces de petites rues tordues avec des escaliers. Et elle montre la photo d'une femme, et on va comprendre qu'en fait, elle recherche son ami et colocataire qui a disparu depuis déjà une semaine, et la police a l'air de s'en foutre complètement. Elle a déjà essayé de porter plainte, mais c'est limite si on l'écoute. On lui dit, bon, elle va bien revenir à cet âge-là, hein, ça arrive.
Il faut que la jeunesse se fasse.
Elle a trouvé un étalon et elle est partie pendant un moment, elle reviendra, pas de problème. Donc tout le monde a l'air de s'en foutre complètement, mais pas elle. Donc elle va comme ça interroger beaucoup de monde, elle fait tout un foin avec ça. Et là, sur le morceau suivant, malheureusement, un voyou lui pique son sac dans une de ses ruelles. Et là, s'engage une course-poursuite à travers les rues. Et elle lâche pas l'affaire, hein. Même avec ses talons, c'est un peu de la magie, elle arrive à courser un gars qui est avec des baskets, mais elle peut le faire. Elle est en train de se perdre, et alors qu'elle le rattrape, elle réalise qu'elle est dans une impasse. Il y a très peu de lumière, d'ailleurs une lumière étrangement bleue avec des petites teintes rouges qui est là. Le type se retourne vers elle, et il n'est pas tout seul. Un autre est dans le dos de la femme. Elle va passer un très mauvais quart d'heure. Et alors qu'elle s'apprête à se faire probablement tuer, dérouiller, je ne sais pas, surgit de nulle part, arrive un gars qui les démonte avec deux ou trois coups de poing, qui lui rend son sac et qui lui dit « Madame, ce n'est pas très raisonnable de traîner toute seule dans ce quartier-là. » Et il la raccompagne, et là arrive la musique suivante. D'abord, ils prennent un café. Elle lui explique ce qu'elle est en train de faire. Il se montre très intéressé, et c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui a l'air vraiment intéressé par son souci. Il faut dire qu'il est particulièrement séduisant, avec un regard sombre. Et ça tombe bien, on n'est pas très loin de son appartement. Donc, ils vont monter chez elle, et la chanson est relativement longue, et effectivement, il y a érotique dedans. Donc,
Tana Terotica.
Nous allons avoir une belle scène d'amour langoureuse, et puis elle s'endort. Et quand elle se réveille, elle est seule. Il est parti. Elle l'a pas réveillé. Il lui a laissé un petit mot pour lui dire « Je vais rechercher ton ami, je te recontacterai. » Mais elle trouve qu'il y a un truc bizarre. Il a oublié son portefeuille. Alors elle regarde dans son portefeuille. Il n'y a pas de papier d'identité. Il y a de la monnaie, mais en plusieurs monnaies. Il y a des lires, il y a des francs, il y a des Deutsche Mark, il y a un petit peu de tout. Elle se demande ce que c'est étrange. Et puis elle trouve une carte d'un restaurant. Donc elle décide d'y aller en se demandant bien, mais qui est ce type là, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle va dans le restaurant et quand elle parle de lui, elle sent qu'il y a comme un silence gêné. C'est pour elle le signal qu'il y a encore quelque chose d'encore plus étrange que ce qu'elle pensait. Donc elle insiste jusqu'à ce qu'un vieux monsieur dans un petit box au fond du restaurant lui fasse signe de venir. Et là, lui disent « Vous devriez pas vous frotter à ce type-là. C'est vraiment pas une bonne idée, ça va mal se passer pour vous. » Mais voilà, elle est amoureuse. Donc elle insiste.
Ça va vite.
Et ça va vite. Et le vieux monsieur lui conseille d'aller à une église non loin où elle pourrait le retrouver. Le jour tombe, mais elle décide d'y aller. Elle se met en route. C'est la chanson suivante. Là, elle pousse la porte de l'église, mais celle-ci est fermée. Bien entendu, il y a une fenêtre ouverte. En tirant une poubelle, elle réussit à rentrer dans l'église en passant par le presbytère. Et quand elle entrouvre la porte, on voit juste son œil dans l'embrasure éclairée par la lumière. Elle voit que l'église est en fait le théâtre des activités d'une secte. Et elle voit son ami, nu, sur l'autel. Devant elle, son amant, un couteau aiguisé, dressé, s'apprête à la tuer, pendant que des gens avec des capuches semblent être en adoration et chantent un truc un peu incompréhensible, probablement du latin ou une vieille langue oubliée, on ne sait pas trop. Elle décide d'intervenir, elle fonce pour empêcher le meurtre. Malheureusement, elle arrive trop tard et la lame s'enfonce dans le cœur de son ami entre ses deux seins dénudés. Naturellement, tout le monde s'arrête. Elle sent que malheureusement pour elle, ça va peut-être mal se passer. Son ancien amant a un regard fou, cette fois, et s'approche vers elle avec les yeux injectés de sang. Et en reculant, elle attrape un cierge qu'elle fait tomber sur lui, enflammant sa robe. Le feu se propage très très vite. Tout le monde crame. Ils s'affolent contre la porte, ils sont en train de brûler, alors qu'elle ressort par la fenêtre, les vêtements abîmés, l'air hagard. Quand la dernière musique se lance, elle repart seule vers son appartement. Ça, c'est
pas
ma
mal,
version.
Pas mal.
Ça, c'est l'histoire
un peu,
que je me suis
racontée. Un peu plus surnaturel que la mienne.
Moi, un peu sur la fin, un peu, j'avoue.
Ce qui est un peu logique en fait quand il pense, parce que donc si on parle de Belladonna d'Heroina, ce qu'il faut savoir c'est que ils ont eux-mêmes créé l'histoire qui va avec. Donc on peut lire sur leur site la véritable histoire. Ce qui est marrant, c'est de voir que c'est absolument pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais ça se tient totalement. Heureusement, c'est eux qui ont créé l'histoire, donc heureusement que ça se tient. Mais surtout, c'est plus une histoire de sorcières et de... Il y a un peu plus de fantastique dans l'histoire de base. Donc, ça ne m'étonne pas que toi, ton imaginaire soit parti sur cette voie-là, dans le sens où c'était, entre guillemets, voulu à la base.
Je te cache pas que s'il y avait eu un petit morceau de plus vers la fin... Après le sacrifice, il y aurait probablement eu un démon qui se serait pointé. Probablement.
C'est pour l'extended cut.
Exactement. Mais c'est vrai que c'est quand même fou ce truc. Et c'est là, c'est toute la réussite aussi de cet album. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans un vidéoclub. C'est que finalement, le pari qui est de raconter une histoire à travers la musique. Alors quand bien même on sait pas raconter tout à fait la même histoire. Mmh. On a quand même des vrais points communs sur le rythme qui est donné par les morceaux. Et ça montre que le concept d'Héroïna, ça marche. Ça marche.
Ah bah oui.
On se raconte une histoire en écoutant la musique. Et je trouve ça génial.
Ah bah c'est l'idée déjà de base est vraiment extraordinaire. Enfin, faut avoir l'idée de se dire on va créer une bande originale d'un film qui n'existe pas. Et ça m'a fait un peu penser aux fausses bandes-annonces qu'avait fait par exemple Robert Rodriguez avec Machete, où ils avaient créé. Et en fait, ça a été l'un des soucis que j'ai eu avec la création de mon film dans ma tête. Un peu comme, c'est un peu le syndrome Machete, c'est-à-dire que quand tu veux créer quelque chose qui n'existe pas, sous une forme de bande-annonce ou de bande originale, tu es obligé d'être sur les points d'action et de montrer que des points d'action. Et donc du coup, moi par exemple, ce qui me manquait dans ma création, c'était en fait des temps morts. Il n'y a pas de temps mort. Donc du coup, tu peux pas créer des zones de dialogue, tu peux pas créer des zones de respiration. Et vu que chaque chanson est suffisamment bien faite pour illustrer quelque chose, que ce soit une course-poursuite, que ce soit un sacrifice, que ce soit une partie fine, enfin je veux dire, les images viennent naturellement, qu'il y a ce souci, entre guillemets, si tu veux réellement créer une histoire qui tient la route, en fait là on aurait, entre guillemets, on aurait nos money shots de notre film, c'est-à-dire qu'on aurait toutes nos grosses scènes avec les grosses musiques, mais par contre, il nous manquerait tous les liens qu'il y aurait entre chaque, avec les moments où les musiques seraient beaucoup plus calmes, ou en tout cas, où la musique, et ça se fait souvent dans les films, c'est là où on ne fait pas attention. On va pas, si tu fais pas attention, des fois, tu as de la musique sur des dialogues, mais tu es plus focalisé sur les dialogues. Là où une musique, je vais dire... un petit peu comme la musique de Starship Troopers. Quand la musique de Starship Troopers apparaît, elle souligne quelque chose. Ouais. Et souvent, c'est dans une scène d'action, on va souligner l'action, on va souligner ce genre de choses. Dans une scène érotique, on va souligner le côté érotique avec une musique, avec des tonalités qui bizarrement, vont nous faire penser à du cinéma érotique des vieilles années. Et ça a été, entre guillemets, ma seule limite avec la création, ça a été d'être vraiment sur... Alors, c'était pas ma seule limite, mais mon seul problème, entre guillemets. Mais c'était d'être sur plein de gros points.
C'est les pointillés qui posent, qui sont plus difficiles.
Il faut arriver à trouver une sorte de lien entre chaque.
Après, le contrat est pas mal respecté. On va pas dire qu'Héroïna, c'est des feignasses et qu'ils auraient dû faire 4 morceaux de plus pour faire le lien. Moi aussi, on peut le dire. Allez, on le dit quand même. Ça aurait fait un album plus long, ce qui aurait été cool. Mais il s'avère que sur les films italiens, la plupart du temps, alors la musique est très présente dès qu'il y a des actions ou des moments clés. Mais à l'inverse, les scènes d'exposition du récit, souvent, il n'y a pas de musique. Dans ces moments-là du tout. Et enfin, j'ai pas mal d'exemples qui me viennent en tête où en fait quand on va poser les bases des relations entre les personnages, des enjeux, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pas le point fort du cinéma italien, c'est souvent des passages assez plats, faut bien reconnaître et souvent il n'y a pas beaucoup de son associé à ça. Donc on va pas forcément dire que c'est des feignasses, mais qu'ils ont appliqué le concept jusqu'au bout.
Bah, disons que la logique voudrait que si c'était réellement une bande originale, on aurait vraiment cette bande originale-là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de morceaux supplémentaires.
Donc, exactement.
Entre guillemets, le contrat est purement et simplement rempli. C'est juste que
tout à fait.
Quand tu dois t'imaginer, c'est là où c'est plus compliqué. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, les moments où il n'y a pas de musique, tu as tes images devant les yeux. Donc, on t'amène le lien entre tes scènes. Là où toi, tu as besoin soit de temps mort pour faire un lien, soit de moments un peu plus calmes pour pouvoir lier un peu tout ça.
Bon, ça faisait un truc qui était bien cool, mais donc c'était une riche idée d'être arrivé avec avec ça. Tu m'as bien vu. Du coup, bon, évidemment, t'as rien à me rendre. Hein. Donc on le connaît tous les deux, mais c'est vrai que c'est quand même un chouette album. Que c'est vraiment du bon boulot, quoi. Et tu vois, moi, ça me donne limite envie. Je me dis, mais ce concept, mais il est tellement déclinable. Là. Même si on a des différences, on a quand même tous les deux vu quelque chose qui était assez urbain, avec tout de même une logique de progression de type enquête, même si tu as des différences, c'est-à-dire de déplacement dans les villes, etc. Mais putain, tu prends ce concept avec un post-apo
ou un film de SF dans l'espace. Enfin, je veux dire, il y a vraiment possibilité
de SF, un polar des années de plomb. Il y a matière, il y a matière à faire pas mal de choses, quoi. Et il y a quelque chose de très sympa de voir que l'imaginaire peut être stimulé rien qu'avec les musiques. Et il y a un dernier truc qui m'a frappé aussi, et ça c'est pas mal propre au cinéma italien, c'est que tu parlais de mise en condition, de concentrer quand t'écoutes ça, mais c'est vrai qu'en fait finalement on est assez vite happé parce que l'imaginaire fonctionne en même temps que l'écoute. Et il y a ce truc aussi avec le cinéma italien, d'avoir un petit doute, et ce qui peut donner des pistes différentes, puisqu'ils ont quand même l'habitude, dans les musiques de ces films, de créer une espèce d'inversion, c'est-à-dire d'utiliser des musiques parfois qu'on aurait tendance à mettre sur des scènes, on va dire, sensuelles ou romantiques, et d'utiliser ça pour illustrer des scènes violentes, et inversement, d'utiliser des musiques qui peuvent être beaucoup plus dynamiques sur des scènes plus sexy, par exemple. Ce qui fait ça multiplie les possibilités, quelque part, sur l'histoire qu'on peut se raconter. Et ça marche qu'avec le cinéma italien, où on n'hésite pas à utiliser l'inversion comme ça.
Clairement, j'avoue que je suis encore... J'ai pas assez de bagages sur le cinéma italien, même si je commence là un peu à voir du film et à écouter pas mal de BO, parce que, j'apprécie. Hein,
c'est bien.
Mais je vais clairement dans ton sens avec un exemple flagrant, c'est la BO de Cannibal Holocaust.
Bah ouais.
Quand tu penses au film, je mets au défi des personnes d'écouter sans savoir ce qu'ils écoutent la BO de Cannibal Holocaust, en tout cas certains morceaux, et de se dire que c'est la musique d'un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma, parce que on est sur un truc guilleret, un peu entraînant, qui est clairement, comme tu l'as dit, à l'exact opposé de ce qui est projeté sur l'écran. Donc
j'aime beaucoup la musique de La Baie Sanglante aussi pour ça, qui est ça a l'air d'avoir tellement pas de rapport. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourtant, ça fonctionne. Va savoir pourquoi.
Et c'est ça.
C'est ça, c'est un peu la magie du truc, quoi. Puisqu'on est sur le cinéma italien, t'aurais un petit truc à me conseiller?
Les démons du fils c'est
Lamberto.
Ouais, c'est Lamberto Bava qui sont arrivés là au magasin il y a pas longtemps dans deux nouvelles copies restaurées, donc je te conseille si tu veux partir sur ça.
J'aime bien Démon et j'aime bien les deux, parce que le premier, je trouve que c'est un vrai bon film d'horreur, et le deux c'est un vrai film drôle, quoi. Le deuxième, quand j'avais vu Démon 2, ça fait quand même un sacré bout de temps quand j'avais découvert, je crois que je m'étais parmi d'une scène où il y a des mecs qui font de la gonflette, qui sont avec des tenues de sport, avec des shorts, on dirait des shorts d'athlètes de la RDA, tu vois, ils sont tous à courir partout, alors que les démons, ils font 1m20, quoi. Cette scène, je la trouve assez extraordinaire.
Et toi, est-ce que t'as des films à conseiller?
Alors, tiens, je vais t'en conseiller un qui est un peu dans la tonalité de ce qu'on a eu dans Belladonna, ou qui pourrait marcher, en tout cas.
Mm-hmm.
Je vais te conseiller Sanctuaire, qui est un film de Michele Soavi, qui est un réal que j'aime bien, qui était peut-être le dernier réal à faire du ce qu'on appelle le cinéma de genre, quoi, avant que ça disparaisse, hein, plus ou moins.
Clairement.
Il a résisté encore un petit peu. Il en a fait un certain nombre que moi j'aime vraiment bien, où il y a
De la morte de l'amore.
Alors, par exemple. Mais il y a Bloody Bird que j'aime beaucoup, Sanctuaire, c'est La Secte aussi. Alors c'est pas irréprochable comme film, mais ce que j'aime beaucoup, et si je prends Sanctuaire, c'est parce que c'est un film qui est dans un environnement urbain lui aussi. Il y a des éléments aussi avec une église, donc comme quoi, hein, ça peut marcher.
Tout est lié.
Et j'aime bien ce film parce que il a une approche finalement plutôt contemporaine dans son histoire, mais avec un style assez gothique dans ce qui est montré à l'écran, et comment j'allais dire très maniéré, très stylé plutôt, avec le, on garde cette logique de d'éclairage, bon bah franchement artificiel, hein, mais qui sont là pour la composition de l'image. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé, c'est l'école Mario Bava puis Argento. Et ça marche bien avec Soavi, quoi. Je regrette qu'il ait pas pu faire plus de films. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Je crois qu'il est chez Le Chat qui fume, si je dis pas de bêtises. J'ai plus en tête, je l'ai pas sous le nez, mais et je le trouve pas trop mal, quoi. Voilà, je l'aime bien, et je suis pas loin de penser que cette BO pourrait fonctionner avec Sanctuaire.
Et peut-être que c'était une inspiration pour Heroïna, on ne sait pas.
Tiens, mais attends, j'y pense. Eh ben, bouge pas. Sanctuaire, je l'ai en boutique. Tu vas pas repartir les mains vides?
Eh ben voilà,
on est assez loué près de chez vous, là, quand même, donc...
Eh ben voilà,
attends, tiens, hop, il est là, je te le passe.
Allez.
Et tu m'en diras des nouvelles.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup.
Eh ben ouais, merci à toi, tiens, c'était bien sympa de discuter, ça me change de ces gens qui vont me louer des bandes annonces d'Avatar 2, tiens.
Il y a un public à tout, mon ami, il y a un public à tout.
Fou du moment que je me fais des ronds, moi, bon. Allez, tu me ramènes ça à quoi à la semaine prochaine, on dit, et puis on en discute
un
petit peu.
Allez,
ça
pas
roule.
De soucis.
À la prochaine, Nico.
Ciao.
Ciao.